Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous avançons toujours dans le récit de la Passion de notre Seigneur. On avance doucement parce que ce sont des passages très importants. Nous en sommes sur le polycopier qui couvre les chapitres 26, 27 et 28 de Saint Matthieu à la page 21, en haut de la page. Donc, rappelez-vous ce que j'ai expliqué, essayé d'expliquer la dernière fois, la passion doit être personnalisée. Ce n'est pas simplement faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans, comme font les protestants. Il faut adapter, non pas adapter, mais il faut personnaliser la passion, se mettre vraiment dans la passion. La passion, c'est nous qui crucifions notre Seigneur, c'est nos péchés, c'est à cause de nos péchés que notre Seigneur Jésus-Christ va à la mort et sans nos péchés, il n'y serait pas allé. Saint Thomas d'Aquin dit que si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait, si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu l'incarnation, ni la rédemption. Donc le prix, la cause de nos péchés, la cause efficiente de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ sont nos péchés. Donc il faut y penser à chaque fois que nous sommes tentés. Et bien, ce que disent les pères, page 21, en haut. Si nous avons des fautes à racheter, faites que nous puissions les racheter pour nous et nos descendants. Mais si nous ne voulons pas reconnaître notre responsabilité, nous appelons alors la culpabilité sur nous-mêmes. N'ayant aucune crainte de la punition, c'est-à-dire où la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous aide à flotter pour passer la mer de ce monde, aller de l'autre côté du rivage, vers le paradis, ou si nous refusons la croix nous écrase. Et on ne peut pas éviter la croix, c'est impossible. La croix est dans la vie de chacun d'entre nous. On ne peut pas éviter la croix, c'est absolument impossible. C'est en méditant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on comprend ça, où nous portons la croix volontairement par amour du bon Dieu, où nous la portons obligatoirement, et à ce moment-là, le bon Dieu ne peut pas nous donner les grâces dont nous avons besoin, parce qu'on apporte cette croix en rechignant, où que nous allions, quoi que nous fassions, nous aurons toujours devant nous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs le ressentent aujourd'hui dans toute sa force, étant dispersés de par le monde, sans cité, ni temple, ni sacrifice, ni prêtre, étant devenus pour tous les pays comme une race d'esclaves. La diaspora juive répandue de par le monde, c'est aussi une conséquence de la passion. N'oublions pas que les Juifs ont été le peuple juif a été livré à l'esclavage après la destruction de la ville de Jérusalem par Titus. Et il nous faut vraiment méditer sur le châtiment des Juifs que nous méritons nous aussi quand nous sommes infidèles. Les Juifs ont été infidèles et Dieu sait s'ils l'ont payé très cher, que son sang retombe sur nous. Sur nos têtes et la tête de nos enfants, disaient les Juifs, mais nous, on n'a pas fait mieux. Et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ peut aussi retomber sur les Français complètement impies que nous sommes devenus, et nous aurons à payer très très cher ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ que le peuple français a refusé dans son ensemble depuis la révolution de 1789. S'il y a un petit détail de la liturgie, pas de la liturgie, de l'histoire, qui dit que ce fut en punition la crucifixion du Christ que Titus ordonna que 500 juifs soient crucifiés chaque jour pendant le siège de Jérusalem, alors qu'ils sortaient de la ville en recherche de nourriture, au point qu'il n'y avait plus de place pour les croix et plus de croix pour les corps. C'est l'historien Joseph qui raconte ça. Cette malédiction repose sur eux jusqu'à ce jour et le sang de Dieu est toujours sur eux. C'est terrible. Et c'est ça qui crée ce malaise chez les juifs, qui sont malheureux les pauvres, parce que justement ils sentent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de lire, si je ne vous l'ai pas déjà dit, le dernier livre de l'abbé Rioux, La question juive, qui est remarquable. Surtout des citations très intéressantes du Talmud et toute une série de points historiques très intéressants qui expliquent justement la psychologie juive. Vous avez aussi les livres de Hervé Rissen qui sont très intéressants sur le sujet. Alors ici une petite note des pères, je ne sais plus quel est le père, où est-ce que j'ai trouvé ça. Sainte Brigitte nous donne le nombre exact des blessures du Christ, 5475, qui lui fut révélé. Alors là, faites un petit peu attention à ce genre de détails, parce que il n'y a pas de saints qui disent la même chose, à ma connaissance en tout cas, sur le nombre de blessures que notre Seigneur Jésus-Christ a reçues. Alors, le nombre de blessures n'est absolument pas de foi. Notre Seigneur Jésus-Christ a été flagellé, c'est évident, c'est toute la surface de son corps, et en face ventrale et en face dorsale, on le voit très bien sur le linceul de Turin. Mais combien de coups exactement a-t-il reçu en tout, on ne sait pas. Hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que la flagellation, donc il est dit, Pilate leur délivra Jésus après l'avoir fait flageller, il leur livra pour être crucifié. La flagellation a été une boucherie épouvantable. Et si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pendant la flagellation comme il aurait dû le faire, parce que humainement parlant, pas un seul homme ne pouvait supporter une flagellation de plus de 40 coups, or notre Seigneur a reçu au moins 60 coups, eh bien le Christ n'aurait dû survivre à la flagellation si sa divinité ne l'avait soutenu. Donc il a toujours la vision béatifique, et grâce à cette vision béatifique, il a pu en quelque sorte obliger, par la force de sa divinité, obliger son humanité à ne pas mourir. C'est vrai que personne ne peut souffrir autant que le Christ a souffert, parce que un être humain normal serait mort pendant la flagellation. Ici un texte de saint Thomas, j'ai déjà expliqué dans les conférences que j'ai données sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, donc pour ceux que ça intéresse, qui veulent un peu plus connaître l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la passion du Christ, ben vous avez toutes les conférences concernant la passion du Christ dans la somme théologique, c'est dans le traité sur l'incarnation au début de la Tertia Pars, troisième partie de la somme. Je veux dire, c'est ça, troisième partie de la somme, enfin c'est quatrième en fait. Il y a prima pars, prima seconda, seconda et tertia pars, donc c'est la quatrième partie de la somme. Dans le traité d'incarnation, toute une partie magnifique sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'y reviens pas parce que je l'ai déjà traité dans un autre cours. Voilà ce que dit saint Thomas. Notre Seigneur souffrit par la désertion de ses amis, dans sa réputation et son honneur, dépouillé de ses biens, dans son corps, dans son âme, par la souffrance, dans son corps, par ses blessures. Il souffrit aussi dans toutes les parties de son corps et dans tous ses sens. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu que cette passion ne rattrape pas tous les différents péchés, comme nous avons péché avec chacun de nos sens, donc il faut rattraper les péchés de tous ces sens. Pour cela que lorsque nous donnons l'extrême onction à un mourant, eh bien, on va faire une onction avec l'huile des malades sur chacun des sens, justement, sur les yeux, sur le nez, les oreilles, sur la bouche, sur les pieds et les mains, justement pour rattraper et détruire les peines temporelles des péchés déjà pardonnés par la confession, mais qu'il faut encore payer, il faut payer la peine du purgatoire, et l'extrême onction c'est ça, un sacrement qui va justement bénir en quelque sorte chacun des organes des sens pour que nous puissions rattraper les peines du purgatoire liées aux péchés que nous avons commis avec chacun de ces sens. Mais les souffrances physiques de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont bien visibles, ne sont rien à côté des souffrances morales. Rappelez-vous sa passion. Mon âme est triste à mourir. Je l'ai déjà dit souvent que notre Seigneur a plus souffert pendant son agonie au Jardin des Oliviers que pendant la passion elle-même, justement à cause du fait qu'étant Dieu, il avait une sensibilité extraordinaire à cause de l'union entre l'humanité et la divinité. Étant Dieu, il voyait l'inutilité de sa passion pour tant d'hommes. Tellement d'hommes vont passer à côté de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le démon a essayé de le décourager en disant « Mais tu meurs pour tous ces hommes, il s'en fiche. Regarde, de toute façon, c'est moi qui vais les récupérer. » Ses souffrances dans son esprit furent de loin les plus graves, car il fut spécialement blessé par les péchés de chaque homme. Il pleura aussi pour la multitude des damnés. Le Christ fut, selon le propre témoignage de Pilate, injustement condamné par lui. La jalousie l'accusa, la haine témoigna contre lui, son crime fut l'innocence, la crainte a perverti le jugement, l'ambition l'a condamné, la cruauté le punit. Quelles sont les personnes qui ont fait le plus de mal à notre Seigneur Jésus-Christ? Ce ne sont pas les Juifs, hein? Certainement pas. Je pense que ce sont les prêtres. Dieu doit plus souffrir, notre Seigneur Jésus-Christ doit plus souffrir du péché des prêtres que des péchés des Juifs, parce que les Juifs sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais que c'est une bonne guerre que les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ cherchent à l'abattre, c'est logique. Par contre, les prêtres sont en principe les amis préférés de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand notre Seigneur Jésus reçoit des coups de ceux qui sont supposés être ses amis, il va supporter beaucoup plus, ça sera beaucoup plus dur psychologiquement parlant. Donc notre Seigneur Jésus-Christ doit certainement souffrir davantage du péché des prêtres et que des péchés des Juifs. Rappelez-vous le début du message de la Salette, donc, qui a été reconnu par le pape Léon XIII, par le pape Pie IX, par le pape Saint Pie X. Donc au début, il est dit, les prêtres, les ministres de mon divin fils sont devenus des cloaques d'impureté. Et la Sainte Vierge dit ça en 1846. C'est un texte parfaitement reconnu par l'Église. N'en déplaise ces messieurs, dames, ces prêtres, pardon, de l'IMBC, qui disent le contraire. Donc il faut méditer là-dessus. Les péchés des prêtres sont les plus graves parce que les péchés des prêtres sont commis par ceux qui ont... à qui Dieu a donné la clé du salut des hommes. C'est ça que nous, prêtres, nous devons faire très attention, et vous, fidèles, vous devez prier pour vos prêtres, pour que nous puissions justement vivre en fonction de notre dignité et rattraper nos péchés. Je sais si nous en avons à rattraper tous, moi le premier. Versets 27 à 30 du chapitre 20. Chapitre 27. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte, et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'une chlamyde écarlate. Puis, tressant une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête et un roseau dans sa main droite. Et fléchissant le genou devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» et crachant sur lui, prenaient le roseau, lui frappaient la tête. Vous savez que cette couronne d'épines, en fait pas une couronne vraiment d'épines, c'est un casque d'épines, avec un buisson d'épines qu'on appelle depuis Spina Christi, l'épine du Christ, qui a des épines très dures, dures comme l'acier, qui font presque 2 cm de long, 2 cm et demi de long même. Eh bien, ils ont recouvert la tête de notre Seigneur Jésus-Christ sur la chevelure par un casque d'épines, et ils lui ont enfoncé dans le cuir chevelu à coups de bâton avec le sceptre. Et ils ont mis à ce moment-là, pour maintenir le casque d'épines en place, ils ont mis autour de ce casque, autour de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, un jonc tressé en forme de couronne. Et c'est ce jonc tressé qui est à la Sainte-Chapelle à Paris. Vous savez que le roi Saint-Louis a pu sauver la couronne d'épines et la ramener en Europe. Il a construit pour abriter la couronne d'épines comme un écrin extraordinaire à la Sainte-Chapelle. La couronne d'épines, je crois, n'est exposée aujourd'hui que le Vendredi Saint. Eh bien, vous serez étonné, la couronne d'épines est maintenue dans un tube de cristal circulaire. Et en fait, la couronne d'épines, c'est le cercle de jonc qui tenait le casque d'épines. Les épines, elles ont été distribuées de par le monde, découpées en petits morceaux, distribuées partout dans le monde. il y en a encore. Il y a des reliques très importantes de la Passion, surtout à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Si vous allez à Rome, allez voir cette magnifique basilique, qui est certainement une des basiliques les plus importantes à visiter, parce que là, il y a des reliques extraordinaires de la Passion, entre autres un gros bout de la croix. On est habitué à avoir des reliques de la Sainte-Croix toutes petites. Moi, j'en ai une toujours sur mon bureau. Je dis ce que j'oublie pas aussi pour pendant les retraites, hein, pour le chemin de croix. Mais c'était des petites écailles, des petites, toutes petites épines qui viennent de la croix. Mais à Basilique Sainte-Croix de Jérusalem, il y en a un gros bout qui fait, je ne me rappelle plus, je l'ai vu il y a très longtemps, en 75. Mais si mes souvenirs sont exacts, ça fait 30 ou 40 cm de haut. Donc il y a une grosse partie du bois de la croix. Donc il y a aussi un clou, il y a aussi plusieurs épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le titulum, le signe qui était au-dessus de la tête du Christ sur la croix et qui indiquait la cause de sa condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Hein. Pour cela que sur la plupart des crucifix, surtout en France, on a l'écriteau INRI, c'est pas INRI, c'est J-N-R-J, parce que le J majuscule et le I majuscule sont identiques en latin. Et ça veut dire ces quatre initiales de la phrase Jésus de Nazareth, Jesus Nazarenus, roi des Juifs, Rex Iudeum, J-R-N-J. Alors, il faut donc encore une fois contempler notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc dans les sous-sols de la forteresse Antonia, là où habite Pilate, et qui va subir les humiliations des hommes, nos humiliations, parce que nous aussi on y est. Donc il y a la couronne d'épines, il y a toutes il est abreuvé à ce moment-là d'humiliation, il fléchit ce genou devant lui, il se moque de lui, il crache sur lui, il lui frappe la tête à coups de poing et à coups de roseau. Et il faut encore une fois se mettre dans l'histoire. Celui qui frappe, c'est moi. Celui qui donne les coups de poing, c'est moi à chaque fois que je commets une faute grave. Chaque fois qu'on commet une faute grave, qu'on a perdu la grâce sanctifiante par le péché mortel, il faut revoir les images de la Passion de notre Seigneur et se mettre dans la Passion, dire voilà, je viens d'offenser le bon Dieu par un péché mortel, alors c'est moi qui donne le coup de poing, là, c'est moi qui crache sur lui, c'est moi qui tape sur sa tête avec le roseau. Comment pourrons-nous être encore sensibles aux outrages que nous pourrions recevoir après que Jésus-Christ se soit soumis à d'aussi indignes traitements? C'est bien là le dernier degré de l'outrage, car ce n'était pas une petite partie de lui-même, mais tout son corps qui était exposé à ces indignités. La tête, par la couronne d'épines, par le roseau, par le soufflet. La tradition dit qu'il a su faire toutes ces injures sur sa tête. La tête, c'est le siège de l'intelligence, hein, justement pour rattraper tous les péchés de l'intelligence. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué au dernier cours sur les péchés de Pilate, hein, péché de libéralisme par lequel il donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, même droit à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ, et le péché par lequel il soumet la vérité au nombre en essayant d'avoir au moins 50% des gens pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'inverse qui arrive, la plupart des gens sont pour Barabbas, alors ils livrent Barabbas. J'ai expliqué la dernière fois que si vous ajoutez à l'erreur du libéralisme l'erreur de la démocratie qui consiste à suivre le nombre pour faire la vérité à partir du nombre, ben vous arrivez à l'apostasie, hein. Et donc notre Seigneur a souffert dans sa tête pour réparer tous ses péchés d'intelligence. Le visage aussi a été tuméfié par les crachats dont on le couvrait. Hein, peut-être aussi pour rattraper tous les péchés de vanité, péchés de sensualité. Chaque fois que je passe trop de temps devant le miroir parce que je m'occupe trop de ma petite apparence extérieure. Les joues par les soufflets qu'ils y déchargeaient. Encore une fois, combien de péchés sont commis, pas simplement par les femmes, mais aussi par les hommes, justement, par cette vanité, par tout ce temps qu'on a passé à se couvrir, surtout pour les femmes, se couvrir de cosmétiques pour plaire, parfois, à des gens à qui on n'a pas le droit de plaire. Hein. Si vous le faites pour plaire à votre mari, il n'y a pas de problème, vous avez le droit, mais si c'est vous fait pour plaire aux voisins, c'est une autre chose. Tout le corps, enfin, par la flagellation, la nudité à laquelle il fut exposé. Les pères expliquent bien que si notre Seigneur Jésus-Christ a été exposé à la nudité, ben c'est pour rattraper tous les péchés, surtout les péchés actuels. On voit très bien aujourd'hui comment la nudité a pris commande, la commande du monde moderne, surtout en Europe,
Pourquoi aux États-Unis c'est un peu pareil, la nudité partout, et notre Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé nu, portant la croix, ou presque nu, et nu sur la croix, justement pour rattraper tous ses péchés. Les pères disent aussi que la flagellation a été offerte justement en réparation pour tous ces péchés de d'impureté, de vanité, de sensualité. Tu peux y penser chaque fois que, surtout à cause des grosses chaleurs du mois d'août ou du mois de septembre, eh bien, peut-être vous êtes tenté de sortir en public avec un habit qui est indécent. Et c'est pas seulement valable pour les femmes, pour les hommes c'est pareil, hein. Eh bien, pensez à la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'une femme qui s'habille pour sortir, avant de sortir, franchir la porte de sa maison, devrait aller se mettre devant sa glace en disant, est-ce que je peux, avec la tenue que j'ai actuellement sur les épaules, la tenue qui est la mienne actuellement, est-ce que je peux honorer la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que je lui fais honte? Il faut y penser. Donc les mains ont été blessé chez notre Seigneur par le roseau qui lui donnèrent pour sceptre, comme s'ils eussent craint d'omettre la moindre partie de ce que l'audace la plus effrontée peut suggérer. Ben, les mains vont être percées. Pourquoi? Pour réparer tous les péchés avec les mains. Dieu sait si on en fait. Non seulement les bagarres, tous les coups de poing qu'on donne, qu'on n'a pas le droit de donner, mais aussi l'usage des mains pour faire des mauvaises choses, des tas de choses. Pas simplement les péchés d'impureté, aussi les péchés, par exemple, les péchés de l'écriture. Les mains servent à écrire, les doigts servent à écrire, à tenir le crayon, le stylo qui marque les lettres sur le papier. Combien de fois j'ai écrit des choses que je n'aurais pas dû écrire? Il faut réparer tout ça. Et notre Seigneur a aussi des pieds crucifiés, justement, pour expier tous les péchés qui ont été faits avec les pieds. Combien de fois, tant que catholique, j'ai utilisé mes pieds pour aller dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller, hein? Donc pense à tous ces catholiques, j'ai connu, je ne vais pas donner de noms, je pourrais en donner des noms, mais je n'en donnerai pas. Il y a des catholiques de tradition, des catholiques qui se présentaient comme prêtres, comme traditionnels, et qui allaient passer leurs vacances sur les plages de la Costa Brava en Espagne, ou les plages qui allaient à Nice ou à Saint-Tropez pour se bronzer au soleil sur les plages de la Côte d'Azur, alors qu'ils sont catholiques, et en plus alors qu'ils avaient des enfants de 10-12 ans. Enfin, c'est des fous alliés. Combien de temps voulez-vous qu'un garçon de 14 ou 15 ans garde l'état de grâce sur une plage de la Côte d'Azur en plein mois d'août? Vous pouvez m'expliquer un peu? Avec toutes les nudités qu'il y a partout. Bon, si vous allez à 2h du matin, ça va, il n'y a personne. Il ne verra rien. Hein? Mais attention à ça. Donc il faut éviter les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Hein. Si vous allez dans des lieux de vacances comme ça, ben vous poussez vos enfants à ces péchés contre l'impureté, surtout par le regard, et toutes les conséquences que ça va entraîner psychologiquement pour les enfants, et ben vous les poussez au péché. Vous êtes coupable d'un péché qu'on appelle le péché de scandale. Parce que par le mauvais exemple que vous leur donnez, vous les poussez au péché pour leur réparer tout ça. Hein. Et c'est pas facile de réparer un scandale. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur sur le sujet, il n'est pas très aimable sur ce sujet. Malheur par qui le scandale arrive. Il ferait mieux pour un homme qui est coupable d'un péché de scandale d'être jeté à la mer avec une meule de moulin attachée à son cou. Ça fait 300 kilos de meule de moulin, peut-être même plus. Si vous nagez avec une meule de moulin attachée à votre cou, vous allez voir combien de temps vous allez rester à la surface. On le frappe à la tête avec ce roseau, en bas de la page 21. C'est-à-dire que les nations faibles et infirmes, soulevées par la main de Jésus-Christ, se reposent en Dieu le Père qui est la tête du Christ. Ce manteau d'écarlate, dans un autre sens, notre Seigneur va être revêtu d'une chlamyde d'écarlate. C'est un manteau militaire. La chlamyde d'écarlate figure la chair du Seigneur qui nous apparaît comme rouge à cause du sang qu'il a répandu. Et la couronne d'épines, nos péchés qu'il a pris sur lui parce qu'il s'est revêtu d'une chair semblable au péché. Les pères disent que notre Seigneur a accepté la couronne d'épines en réparation pour tous les péchés de l'orgueil. Chaque fois que je place la couronne d'épines dans la couronne du roi sur ma tête en redisant la phrase du démon, la phrase de Lucifer, je ne servirai pas. Donc attention à méditer là-dessus pour bien comprendre justement le but de la flagellation, réparation de tous les péchés de sensualité, de vanité, d'impureté, la couronne d'épines, réparation de tous les péchés d'orgueil. Continuons en page 22. notre texte des pères. Selon donc, cela donc frappe la tête du Christ avec un roseau qui, osant s'élever contre sa divinité, s'efforce d'appuyer leur erreur sur l'autorité des saintes écritures écrites avec un roseau. Et ceux qui lui crachent au visage sont ceux qui repoussent avec des paroles de blasphème la présence de sa grâce et nient que Jésus soit venu revêtu d'une chair mortelle. D'où la nécessité d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ souffrant sur la croix, ou montant au calvaire en portant sa croix pour moi. C'est la plus belle, peut-être le plus beau moyen de pratiquer cette vertu d'humilité qui est indispensable pour le salut, c'est justement peut-être de méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons notre Seigneur Jésus-Christ et tous ces crachats qui recouvrent son visage, son... ses yeux tuméfiés, son nez qui a été brisé, il n'y a pas d'os dans le nez, donc la prophétie est quand même valable, pas un seul de ces os sera brisé, mais il y a un cartilage qui a été cassé, on voit très bien sur le linceul de Turin. Vous pouvez très bien méditer aussi la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à partir d'une image du linceul de Turin, c'est magnifique. Enfin, cela lui rend des honneurs mensongers qui croient en lui et ne témoignent que du mépris pour lui par la perversité de leur conduite. Ils ont dépouillé le Sauveur de ses vêtements, de sa passion, et l'ont revêtu d'un manteau de couleur. Et en cela, ils figurent les hérétiques qui soutiennent que le corps de Jésus-Christ n'est point véritable mais purement fantastique. Là, c'est toutes les hérésies qui nient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que notre Seigneur n'est que Dieu. C'est vrai que notre Seigneur est Dieu, mais il est aussi homme. Et en niant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, il nie son humanité. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont scandalisées par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se disent, c'est pas possible. S'il est Dieu, comment peut-il supporter des choses pareilles? Donc c'est que son humanité est apparente. Et toutes ces souffrances que nous méditons, que nous voyons pendant la passion, elles ne sont qu'apparentes. Il n'a pas vraiment souffert. Ben oui, notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment souffert. Il y a un texte de Saint Jérôme ici, troisième paragraphe de la page 22, qui est beau. Par la chlamyde écarlate qu'ils ont mis sur ses épaules, le Seigneur porte sur lui les œuvres teintées du sang des gentils. Donc la couleur rouge représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on utilise le rouge pour toutes les messes de martyrs, et aussi pour la Pentecôte. Pourquoi ? Parce que la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, et ayant été rempli du Saint-Esprit, que vont faire les apôtres ? Ils vont partir aux martyrs. C'est ça qui est en rouge. Alors, Saint Athanase précise que la robe écarlate, donc cette chlamyde écarlate, ressemble par sa couleur au sang par lequel la terre a été polluée. Et Origène conclut en disant que le Seigneur, par la robe de pourpre, la chlamyde, prit sur lui le sang, c'est-à-dire les péchés du monde qui sont aussi rouges que le sang écarlate, car le Seigneur a pris sur lui toutes nos iniquités. Donc ce sang, si vous voulez, ces blessures sanguillonnantes qui sont provoquées par les Juifs et les Romains qui martyrisent notre Seigneur Jésus-Christ, représentent justement tous nos péchés qui font vraiment souffrir notre Seigneur Jésus-Christ à un tel point qu'il va laisser des marques sanglantes sur tous les passages qu'il a empruntés. Quand j'ai le temps, pendant l'exercice Saint-Ignace, je lis un texte très beau qui reprend certaines découvertes archéologiques sur le lithostrotos, c'est-à-dire le pavé de la salle des gardes qui était devant, en sous-sol de la forteresse Antonia, là où notre Seigneur Jésus-Christ a été flagellé, puis couronné d'épines et humilié publiquement. Et ils ont trouvé, les archéologues ont trouvé en dégageant les dalles de cette salle, qui était envahie par les pierres, par la poussière, tout ça, quand ils ont découvert tout ça, et qu'ils ont nettoyé tout ça, ils ont découvert des signes gravés sur les dalles, des dalles qui expliquaient un jeu romain épouvantable, qu'on appelait le Basileus. Je vous lis ce texte qui est très beau. Lorsque cette pièce dont je vous ai parlé, le lithostrotos, fut nettoyée des débris qui l'encombraient, des graffitis furent découverts gravés sur les dalles de pierre formant le sol. Ces graffitis marquaient les emplacements d'un sinistre jeu romain appelé Basileus. Il a été bien décrit par les écrivains antiques. Le Basileus était joué pendant les Saturnales de l'équinoxe de printemps. Un soldat était tiré au sort. Il était affublé de la pourpre royale et on lui donnait un bâton pour sceptre. Il était ensuite conduit sur les différents emplacements gravés sur le sol jusqu'à l'endroit gravé avec la lettre B de Basileus. Et là, on le tournait en dérision comme s'il était un roi, on le torturait avant de le tuer par un coup de couteau dans le dos. L'équinoxe de printemps était tout proche quand les juifs du Sanhédrin, les princes des prêtres, les scribes et les anciens du peuple se regroupèrent devant le palais de Caïphe afin de voir comment ils pourraient obtenir la mort de Jésus. Donc voilà la partie de ce texte expliquant justement ce qui s'est passé avec le Basileus. On était au 14 du mois de Nissan, donc tout proche de l'équinoxe du printemps, au moment de la Passion notre Seigneur. La robe de pourpre avait déjà été préparée pour le Basileus qui serait tiré au sort. Mais ce jour-là, on leur livrait un prisonnier qui prétendait être le roi des Juifs. Il n'y avait donc pas besoin de tirer un soldat au sort. La victime était toute trouvée. Ainsi, dans ce grand hall, en suivant les signes gravés sur le dallage de pierre, Dieu incarné fut revêtu de la robe de pourpre couronnée d'épines, abreuvée de sarcasme comme roi et frappé avec un roseau. Mais comme la victime du jeu était condamnée à la crucifixion, elle ne pouvait pas être tuée à la fin du jeu. Les soldats assoiffés de sang poussèrent donc la cruauté en ajoutant une couronne tressée d'épines et une grêle de coups. Le sanctuaire en rend témoignage par la sainte face totalement défigurée, profondément blessée par les épines. Alors on peut aussi, pour méditer, utiliser les magnifiques prophéties du livre d'Isaïe au chapitre 53. Je vous en lis ici une partie, elles sont connues, mais elles aident à la méditation de la Passion. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance comme un objet devant lequel on se couvre le visage. Texte prophétique écrit des centaines d'années avant la mort de notre Seigneur dans l'Ancien Testament. Il était en butte au mépris. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Véritablement, c'était nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite, et lui se soumet à la souffrance et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie et la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'ouvre point la bouche, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il faut savoir que le prophète Isaïe a écrit ces textes entre à peu près 740 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des textes prophétiques magnifiques qui nous aident à méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres textes des pères, évidemment, j'ai pas tout mis, hein. Page 30-22, vous en avez certains. Il faudrait des pages et des pages pour tout mettre. Saint Grégoire le Grand, voilà ce qu'il disait, en donnant le sens analogique. Qu'est-ce que la pourpre si ce n'est le sang et l'endurance dans les souffrances, manifestée par l'amour pour le royaume. Le Seigneur est monté tout empourpré sur une litière triomphante, car on ne peut atteindre le royaume sans les tribulations et le sang. Donc, les pères comparent la croix que va porter notre Seigneur Jésus-Christ à un trône, le trône du roi. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi aussi, en portant sa croix. Et il va être placé sur la croix comme le roi est placé sur son trône. Il y a d'autres comparaisons magnifiques chez les pères aussi, entre, par exemple, le bois de l'arbre, la science du bien et du mal qui avait été interdit à Adam et Ève, et qui a porté la malédiction sur le monde par la pomme défendue après la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc on retrouve le même bois aussi pour au moment du déluge, alors que l'arche de Noé est faite en bois également. Et c'est encore une fois la colombe qui revient avec le bois de l'olivier aussi, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ qui amène le salut au monde. Et bien on retrouve aussi ce même bois le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Saint Joseph et notre Sainte Vierge Marie ont placé l'enfant nouveau-né, Dieu nouveau-né, le jour de Noël, sur une crèche faite de bois. Et bien sur ce même bois, notre Seigneur Jésus-Christ va être placé le jour de la Passion. Et les pères vont même plus loin en expliquant que de même que la très sainte Vierge Marie a enveloppé de l'ange son enfant nouveau-né pour le placer sur la crèche de la Nativité, de la même façon, elle va aussi envelopper son fils à 33 ans qui va descendre de la croix, descendu de la croix, placé sur ses genoux. C'est la Pietà qu'il faut méditer. Il faut contempler. Elle va aussi envelopper à ce moment-là pour la deuxième fois le corps de son fils du linceul, qui va devenir le linceul de Turin. Il faut méditer sur toutes ces choses-là. Donc le vêtement pourpre signifie également la souveraineté sur le monde entier que le Christ se préparait à recevoir. Pourquoi ? Parce que la pourpre est traditionnellement le symbole de la royauté, symbole de l'autorité. Tous les autorités romaines avaient toujours un drapeau de pourpre, des vêtements de pourpre qui étaient le symbole de l'autorité. Origène aussi explique le sens mystique. Dans sa couronne, le Christ prit sur lui toutes les épines de nos péchés tressées ensemble sur sa tête. La piqûre du péché, dit saint Hilaire, c'est celle des épines avec lesquelles la couronne victorieuse du Christ est tressée. Et Tertullien, Jésus porta une couronne d'épines comme la figure de ces péchés que la terre de notre chair nous a apportés, mais la vertu de la croix a ôté et écrasé toutes les piqûres de mort par les souffrances de la tête du Seigneur. Le mépris, la disgrâce et le déshonneur sont mélangés avec la cruauté qui a profané et blessé son front et ses sourcils. On voit très bien les conséquences de ce couronnement d'épines dont parle l'évangile, aussi sur la magnifique face qui apparaît sur le suaire, la beauté extraordinaire, la noblesse extraordinaire de cette face, donc qui apparaît en positif. Lorsqu'on prend une photo du suaire, c'est que le suaire de Turin, donc le vêtement qui a reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 36 heures qu'il va passer dans la tombe à Jérusalem, donc ce saint suaire est en fait un négatif photographique. Et quand on prend les photos du négatif, on obtient un positif. Donc le blanc devient noir, le noir devient blanc. Autre texte de Saint Bernard. Les épines nous enseignent à blesser et dominer la chair par le jeûne, les chemins de crainte et les disciplines, car il ne conviendrait pas que les membres d'une tête couronnée d'épines soient délicats. Et Tertullien rajoute que les chrétiens, par révérence envers la couronne d'épines du Christ, ne portaient pas des couronnes de fleurs comme écrivaient les païens. Et donc, la couronne d'épines, justement, représente toutes les conséquences de nos péchés. Donc, chaque petite piqûre provoquée par les épines explique ce que font les péchés sur le crâne sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi un autre texte ici, connu, le Christ offrit à Sainte Catherine de Sienne deux couronnes, l'une de joyaux éclatants, l'autre d'épines, lui expliquant qu'il lui faudrait porter dans l'autre vie la couronne qu'elle n'aura pas portée sur la terre. Et si elle choisit de porter ici-bas la couronne avec les joyaux, il faudra qu'elle porte les épines au purgatoire. Si au contraire, si elle choisit ici la couronne d'épines, elle portera la couronne de gloire au paradis. Elle saisit immédiatement la couronne d'épines de sa main, la fixa si solidement sur sa tête qu'elle a ressenti la peine pendant plusieurs jours et plus tard reçut aussi la couronne de diamants. Autre exemple, chez les premiers martyrs, on plaça sur la tête de Saint Agapite un jeune de 15 ans des charbons incandescents. Et il exultait en disant, il est de peu d'importance pour la tête qui va être couronnée au ciel d'être brûlée sur la terre. Quand on endure une peine, pensons que le Christ nous offre une des épines de sa couronne. Méditons la couronne d'épines offerte en réparation pour tous les péchés d'orgueil, je l'ai déjà dit. C'est la phrase du démon, je ne servirai pas, qui a amené tous les malheurs sur le monde. Donc tous les malheurs du monde viennent de l'orgueil de Lucifer, et ça a entraîné la désobéissance d'Adam et Ève, et malheureusement les péchés de milliards d'individus aujourd'hui. Cette couronne, dit saint Ambroise, placée sur la tête, nous montre que cette gloire triomphante sera gagnée pour Dieu par les pécheurs de ce monde, comme si elle provenait des épines de cette vie. J'aimerais bien pouvoir, j'espère un jour pouvoir voir la couronne d'épines, vénérer la couronne d'épines à Paris. Une petite histoire que je ne sais pas si je vous l'ai déjà racontée, je m'excuse si je répète toujours les mêmes choses, je ne me rappelle plus toujours quel cours ou quel sermon j'ai expliqué certaines histoires. C'est quand le président de Pologne, il y a plusieurs années, c'était sous Hollande, est venu faire un voyage diplomatique à Paris. Après la visite diplomatique, donc le président de Pologne était présent avec son épouse. Et Hollande, évidemment, le président Hollande qui rate pas une, a proposé, a dit au chef de la diplomatie polonaise, donc au président de Pologne, vous êtes ici à Paris, la ville de la lumière, la ville des philosophes, s'il y a quelque chose qui vous plairait de voir à Paris, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner là. Et j'aurais voulu voir la tête de Hollande quand le président lui a dit « Oui, il y a quelque chose que nous aimerions voir, ma femme et moi, nous aimerions beaucoup aller vénérer la couronne d'épines. » J'aurais voulu voir la tête de Hollande quand il lui a dit ça. Et Hollande a été obligé de s'incliner. Hein. Il n'y a sans doute pas allé lui-même, je crois pas. Mais il a pris des dispositions auprès de l'archevêque de Paris pour que une visite spéciale soit autorisée pour... le chef de la diplomatie polonaise pour qu'il puisse avec son épouse vénérer la couronne d'épines. Autre texte, saint Ambroise, il y a beaucoup de textes magnifiques là. Cette couronne placée sur sa tête montre que cette gloire triomphante sera gagnée pour Dieu par les pécheurs de ce monde, comme si elle provenait des épines de cette vie. Et saint Bernard, bien que les Juifs aient couronné le Christ par dérision, ils confessèrent néanmoins qu'il était un roi couronné. Ils prouvent qu'il est un roi par le témoignage de ceux qu'ils ne connaissaient pas. Saint Augustin, ainsi le royaume qui n'était pas de ce monde vainquit le monde orgueilleux, non pas par un violent combat, mais par de basses souffrances. Jésus vint, portant la couronne d'épines et la robe de pourpre, non pas resplendissant de pouvoir, mais couvert de reproches. La pourpre exhorte, en bas de la page 22, exhorte les bons dirigeants à être prêts à verser leur sang pour le bénéfice de leurs sujets. Ainsi, la couleur pourpre est donnée aux cardinaux pour leur rappeler qu'ils doivent verser leur sang pour l'Église. Le Christ fut couronné d'épines pour restaurer en nous l'arbre de vie et pour guérir nos préoccupations mondaines et nos anxiétés en les prenant toutes sur lui. Donc la couronne d'épines qui écrase la tête de notre Seigneur Jésus-Christ rattrape l'orgueil, non seulement de Lucifer, mais aussi l'orgueil et la désobéissance d'Adam et Ève qui vont désobéir et prendre le fruit défendu. En bas à la page 22, il y a une petite note intéressante, historiquement parlant, ce Godefroy de Bouillon, qui refusa pour cette raison d'être couronné roi de Jérusalem, car il ne convenait pas, disait-il, pour un roi chrétien de porter une couronne d'or dans la cité même où le Christ avait porté une couronne d'épines. Page 23. Vous savez que cette couronne, je vous l'ai déjà dit, j'ai expliqué ça dans le cours sur la somme théologique de saint Thomas, mais la tonsure que les moines portent représente la couronne d'épines. La tonsure que aussi par laquelle passent tous les séminaristes, c'est que c'est la tonsure qui donne la cléricature. C'est parce qu'un séminariste est tonsuré qu'il est appelé monsieur l'abbé. l'évêque va couper 5 mèches de cheveux sur la tête du postulant, qui va devenir clair, donc il va avoir la soutane souplie ce jour-là en même temps. Et bien, cette tonsure représente la couronne d'épines. Bon, on n'apporte pas en France, parce que Monseigneur Lefebvre nous disait, s'il y a une persécution brutale, si vous portez la tonsure sur votre tête, vous allez vous faire prendre tout de suite. Donc il nous demandait de ne pas la porter. Par contre, les moines, dans les monastères, la porte, vous avez dû voir, ce qu'on appelle la couronne des moines, chez les dominicains, les franciscains aussi portent la couronne, les bénédictins aussi. Et cette couronne représente la lutte contre l'orgueil, et donc la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ. La tonsure des prêtres et des moines représente la couronne d'épines. Elle est un signe d'humilité, de mépris de ce monde. Mettez donc sur votre tête la couronne d'épines du Christ pour que vous puissiez imiter sa couronne, car ce n'est qu'après avoir goûté le vinaigre qu'il reçut le miel. Donc vous voulez monter au ciel? Le chemin qui monte au ciel passe par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez pas du calvaire? Eh bien, vous n'aurez pas la croix. Et si vous n'avez pas la croix, vous n'aurez pas la clé pour ouvrir la porte du ciel. La croix, c'est la petite clé qui ouvre la porte du ciel. Donc il faut passer par le calvaire pour récupérer la croix. Une fois qu'on a la croix dans sa poche, on peut se présenter à la porte du ciel. Sinon, on ne rentre pas. Fait par le Père un peu au-dessus des anges, il fut plus tard couronné de gloire et d'odeur. Saint Jérôme nous dit que le Christ fut couronné d'épines pour qu'il puisse gagner pour nous un diadème royal. Nous devenons par adoption non seulement fils de Dieu, mais fils de roi. Nous participons au pouvoir royal de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres symboles ici donnés par Saint Jérôme à propos du roseau. Donc le texte dit que notre Seigneur Jésus-Christ est frappé par un roseau, crachant sur lui, il prenait un roseau et lui frappait la tête. Devenu le sceptre de notre Seigneur Jésus-Christ, le sceptre de majesté. Voilà ce que dit Saint Jérôme. Le roseau repousse et tue les serpents, comme le Christ repousse la luxure empoisonnée. Donc par la robe de pourpre, faute d'orthographe qu'il faut que je corrige là. Par la robe de pourpre, le Christ porte sur lui les œuvres sanglantes des gentils, mais par la couronne d'épines, il enlève l'ancienne malédiction. Et par le roseau, il détruit les animaux venimeux, et dans un autre sens, le tient dans sa main pour enregistrer le sacrilège des Juifs. C'est un symbole d'autorité, le roseau. C'est un symbole de l'autorité législative, l'autorité judiciaire, l'autorité coercitive de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que roi, il a le pouvoir de faire les lois, de juger selon les lois et d'obliger les gens par son pouvoir coercitif à suivre les lois. Ça sert à rien de faire une loi si on ne peut pas l'appliquer. Ça sert à rien de faire une loi si on n'a pas le pouvoir d'obliger les gens à la suivre, cette loi. Donc le roseau qui est donné par mépris à notre Seigneur Jésus-Christ, ce sceptre qui représente le sceptre d'autorité, représente le sceptre de l'autorité judiciaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en tant que roi va revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Rappelez-vous le texte de Saint Matthieu qui explique bien qu'à la fin des temps, notre Seigneur viendra avec les apôtres pour juger les vivants et les morts et il sera assis sur un trône de majesté. Et à ce moment-là, on sera tous, moi le premier, obligés de reconnaître son autorité. Donc Saint Ambroise précise que le roseau est tenu dans la main du Christ afin que la faiblesse humaine ne fût plus vacillante comme un roseau dans le vent, mais renforcée par les paroles du Christ. Il se laisse frapper à la tête pour que notre nature, raffermée par le contact avec cette divinité, ne vacille pas. Ce symbole de la divinité, c'est d'abord la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Au sens anthropologique, au sens moral, le Christ veut ici nous faire comprendre l'état vain, les souffrances de tous les rois et gouvernants. Il veut transformer toutes les insultes en armes de victoire et surtout détruire l'orgueil de Satan par son humilité. Enfin, il nous enseigne que si les royaumes de ce monde consistent en pompe et appareil extérieur, le sien consiste dans les mépris des honneurs, des plaisirs et de soi-même. Il faut couper avec les plaisirs du monde pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut plaire Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent, c'est le monde. C'est pour ça que le démon cherche à nous couvrir d'or, à nous couvrir d'argent. Parce qu'il sait que plus le cœur est envahi par les plaisirs matériels, moyen de place pour mon Dieu, c'est mathématique. Et donc, il n'y a plus de place pour le bon Dieu, parce que tout est envahi, tout le cœur et toute l'âme est envahi par des choses secondaires, il n'y a plus de place pour les choses importantes. Et donc, quand on se convertit, il faut vraiment mettre dehors, chasser loin de nos âmes, toutes ces choses matérielles qui encombrent l'âme. Il faut arrêter d'adorer l'or. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est plus difficile pour un riche de rentrer au ciel que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Bon, certes, en soi, c'est pas la richesse qui est condamnée, mais le mauvais usage de la richesse. Cependant, mais quand on a trop de richesses, on est trop tenté de mal user ces richesses. Il n'y a pas de patron des milliardaires et des millionnaires dans l'Église. Hein. Il y a le patron des pauvres, mais le patron des milliardaires, il n'y en a pas. Alors, nous pouvons continuer d'avancer. Donc, avançons à la page 23, versets 31 à 34 du chapitre 27 de Saint Matthieu. Lorsqu'ils se furent moquer de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qui contraignirent à porter la croix de Jésus. Ils vinrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du calvaire, et lui donnèrent du vin mêlé de fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Il faut savoir que ce mont du calvaire, qu'on appelle le Golgotha, est la même montagne que la montagne de Moria. Donc le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est représenté déjà allégoriquement par ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, qu'on trouve dans le livre de la Genèse au début de la Sainte Bible au chapitre 22. Et c'est évidemment le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui représentait bien ce sacrifice, cette montagne où va aller Abraham. Eh bien, c'est le mont Golgotha. Voilà le texte, je vous lis le texte. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le fils de la promesse, donc Dieu demande à Abraham, le grand prophète Abraham, d'immoler son fils. Et par obéissance, Abraham va obéir. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Donc évidemment, l'analogie est facilement explicable avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père qui demande à Abraham d'immoler son fils représente Dieu le Père qui demande à son fils d'accepter l'immolation sur la croix, la mort du Vendredi Saint. Abraham se leva de bon matin et ayant scellé son âne, il prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous voulons aller jusque là et adorer, puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Et lui-même portait dans la main le feu et le couteau et s'en allèrent tous deux ensemble. Donc là, évidemment, l'explication est ici très facile. Donc, le fils d'Abraham, Isaac, qui porte le bois du sacrifice, représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui porte le bois de la croix. Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père, il répondit, mais voici mon fils. » Et Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu verra trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils allaient tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva l'autel, y arrangea le bois, puis il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de Yahvé lui cria du ciel et dit « Abraham, Abraham !» répondit « Me voici ». Et l'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que vous craignez Dieu, que vous ne m'avez pas refusé votre fils, votre unique. » Abraham, ayant levé les yeux, vit devant lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Oui, c'est évident, toute la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà là expliquée allégoriquement. Donc Isaac, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham, qui veut immoler son fils, représente l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ par les péchés des hommes. Dieu qui demande l'immolation de son Christ pour rattraper les péchés des hommes, avec une différence essentielle, c'est Là, dans le sacrifice d'Isaac, le sacrifice n'a pas eu lieu, parce que Dieu a envoyé un ange pour arrêter la main et le couteau d'Abraham. Par contre, pour notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice a eu lieu et notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment été crucifié à cause de nos péchés. Hein? Voyons, donc avançons dans le texte, donc le texte de la passion. Je ne sais plus où j'en suis là. Donc lorsqu'ils se furent moqués de lui, verset 31, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc ça j'ai déjà expliqué. Donc ce lieu de calvaire, le Golgotha, je viens de vous le dire, était l'ancien mont Moria, sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ, sur lequel Dieu avait voulu qu'Abraham immolât son fils. Une autre tradition, mais qui est niée par saint Jérôme, dit une autre coutume, une autre idée, si vous voulez, qui est répandue par certains pères, qui prétendent que le mont Moria, le mont Golgotha, Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et ils prétendent que ce lieu du crâne était appelé ainsi à cause du fait que le crâne d'Adam aurait été enterré là. Bon, il n'a jamais été retrouvé. Et c'est nié par saint Jérôme. Voilà ce que dit saint Jérôme. J'ai entendu donner cette explication que le calvaire était le lieu de la sépulture d'Adam, en haut de la page 24, et que ce lieu avait reçu le nom de calvaire parce que la tête du premier homme s'y trouvait ensevelie. Mais c'est une interprétation qui peut obtenir de la vogue et flatte agréablement l'esprit du peuple, mais qui n'est pas fondée, car en dehors de la ville, au-delà des portes, se trouve le lieu où on tranche la tête au condamné. Et c'est de là que lui est venu le nom de calvaire, le lieu des décapités. Or Jésus fut crucifié en ce lieu pour ériger l'étendard du martyr dans l'endroit même où les condamnés souffraient le dernier supplice. Quant au premier homme, il fut enterré près d'Hébron et d'Arbé, comme nous le lisons dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 15. Donc cette coutume, cette idée n'est pas recevable, à mon avis, selon saint Jérôme en tout cas. Donc il faut remarquer que Jésus est frappé de verge et couvert de crachats. Il n'a pas les vêtements qui lui appartiennent, mais ceux dont il est revêtu pour expier nos péchés. C'est pour ça que nos péchés vont couvrir notre Seigneur Jésus-Christ comme d'un manteau. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va mourir nu. Mais lorsqu'il est crucifié, que cette scène de moquerie est passée, il reprend ses premiers vêtements et l'habillement qui lui est propre. Donc ça c'est après la mort de notre Seigneur. Aussitôt les éléments se trouvent et la créature en témoignage au Créateur. C'est là où on va voir l'éclipse, le tremblement de terre. Il est dit du manteau qu'il en dépouilla, tandis qu'aucun des évangélistes ne dit rien de semblable de la couronne d'épines. Pour nous apprendre qu'il ne nous reste plus rien que nos anciennes épines depuis que Jésus-Christ les a prises pour les placer sur sa tête vénérable. La couronne d'épines, elle devrait être sur nos têtes. La croix, elle devrait être sur nos épaules. La chlamyde de pourpre devrait être aussi sur nos épaules. C'est nous qui devrions recevoir les coups, parce que c'est nous ceux qui sommes coupables. Et quand on ne veut pas les recevoir, ces coups, qu'on évite la souffrance, et bien notre Seigneur Jésus-Christ vient souffrir pour nous. Le Seigneur ne voulait souffrir ni... Une remarque intéressante des pères en bas de la page 23. Le Seigneur ne voulait souffrir ni dans l'intérieur d'une habitation, ni dans le temple juif, pour ne pas vous laisser croire qu'il n'était mort que pour ce peuple. Mais c'est en dehors de la ville et au-delà des murs qu'il est crucifié pour vous apprendre qu'il offre en sacrifice universel la victime de toute la terre et qui doit purifier tout le genre humain. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans l'humilité la plus profonde, au fond d'une grotte à Bethléem, veut mourir au centre du monde. Le centre du monde, on dit que c'est la ville de Jérusalem, dans le sens que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir au centre du monde, au milieu d'une foule incroyable. Il a voulu naître dans la discrétion, mais mourir dans une foule incroyable, justement pour rattraper par son humiliation publique l'orgueil de l'homme qui s'est pris pour Dieu. Dans le sens mystique, nous voyons ici les nations se charger de la croix et l'obéissance de Simon porter l'ignominie du Sauveur. Le juif, lui, était indigne de porter la croix, disent les pères. Il était réservé à la foi des nations de prendre la croix et de compatir aux souffrances du divin crucifié. Enfin, en bas de la page 23, dernière remarque. Dans un autre sens, Simon de Cyrène, qui porte la croix du Seigneur parce qu'il y est contraint, est la figure de ceux qui sont à la fois mortifiés et pleins d'orgueil. Ils affichent leur chair par les privations extérieures, mais n'ont aucun souci du fruit intérieur de la mortification. C'est ainsi que Simon porte la croix, mais sans mourir sur la croix, et représente les chrétiens mortifiés superbes qui châtient leur corps par les œuvres de la mortification et qui vivent encore au monde par le désir de la vaine gloire. Cependant, nous verrons que Simon de Cyrène, qui portait la croix derrière notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était trop faible pour porter la sienne, donc les soldats romains ont monopolisé quelqu'un, lui vendant porter la croix du Seigneur, et ils ont choisi Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène s'est converti, et pour le remercier de ce qu'il a fait, Dieu a appelé deux de ses enfants, Alexandre et Rufus. Et tous les deux sont saints, Saint Alexandre, Saint Rufus. Saint Alexandre a été martyrisé à Carthagène, fêté le 11 mars, et Rufus est même devenu prêtre et évêque, premier évêque de Thèbes, puis de Tortosa. Je ne sais pas où est Tortosa, mais c'est ce que dit ici la remarque, page 24. Donc, Saint Hilaire dit que le lieu du crucifixion fut choisi de manière que placé au milieu de la terre, il se présenta également à tous les peuples de la terre pour leur donner la connaissance de Dieu. Parce que le jour de cette grande fête de Pâques, la foule de du monde entier, du monde connu de l'époque, venait à Jérusalem. Donc il y avait des gens de toutes les nations qui vont donc être les témoins de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après avoir goûté, Christ ne veut pas voir le vin mêlé de fiel, pour nous apprendre qu'il a goûté pour nous l'amertume de la mort, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. Il refuse donc de boire ce vin mêlé de fiel, parce que l'amertume des péchés ne doit point se mêler à l'incorruptibilité de la gloire éternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas, en quelque sorte, abréger ses souffrances ou diminuer ses souffrances. C'est pour ça qu'il ne va pas vendre, il ne va pas avaler cette mixture de vinaigre et de miel qui était destinée un peu à endormir un peu, à diminuer les souffrances de la croix. Il refuse pour souffrir jusqu'au bout. Donc voilà, nous continuerons, si Dieu veut, la prochaine fois. On est encore loin de la fin de cette passion. Plusieurs conférences certainement pour finir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.